Ok, ben bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Si certains d'entre vous ont assez de réseau, vous pouvez allumer vos caméras, comme ça je peux vous voir et me connecter aussi à vous. Et ici, dans notre belle tente toute décorée, on est, je pense, exactement le même nombre. C'est super, ça fait un peu particulier. On est comme une grande sangha ici dans la tente et la même sangha en petit sur l'écran. J'aimerais bien en fait vous montrer. Tu penses, Adrien, qu'on peut faire juste un petit tour de caméra parce qu'il y a à l'écran des gens que vous connaissez et qui se connaissent en fait. C'est possible ça de.
Je pense qu'il n'y aura pas de lumière en fait.
Ah, vous allez rien voir. Ok, bon ben on laisse tomber. En tout cas, bienvenue. Bienvenue. Peux commencer par des choses un peu techniques. Déjà, que ça soit chez vous, que ça soit ici dans la tente. Si quelqu'un a encore son portable et qu'il est allumé, ben, c'est le moment de l'éteindre et de le mettre de côté. Donc on va commencer cette nuit de Wessak qu'on prépare depuis longtemps. Et ceux d'entre nous qui sont là sur le terrain, on a commencé par installer cet espace. Ça a été un peu comme toute une cérémonie en fait pour s'installer ici. On a installé la tente, on a mangé ensemble, on a continué la tente, on a mangé ensemble, on a fini la tente sur plusieurs jours. Et puis après ça, il y a eu tout le temps de la décoration. Et on a vraiment pris le temps en fait de mettre ensemble, de poser une atmosphère. Et voilà, on y est au début de la nuit. On a été voir la pleine lune qui se lève là-haut. Enfin, certains d'entre nous ont été voir déjà la pleine lune qui se lève là-haut. À un moment, la nuit de Wessak, c'est la troisième année qu'on le fait. C'est quelque chose d'un peu fou, je trouve, l'idée de méditer toute une nuit. Il y a de fou, de poétique. Je voudrais. J'y pensais juste il y a quelques temps, là, je voudrais dédier cette nuit à Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien qui habitait en France et qui est décédé récemment. Voilà. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, m'inspire toujours. Et voilà, j'aimerais bien lui dédier cette nuit. Et pour moi, je vais dédier aussi cette nuit à mon père qui est décédé hier. Et ce qui me trouve. Voilà, du coup, c'est une ambiance particulière pour moi, ce Wessak. Je me demande comment va se passer ce discours. Je vais l'entendre en même temps que vous. Et voilà. Donc, mercredi, je prends l'avion avec Lanza, mon fils. Pour aller aux funérailles. Et j'ai décidé, en fait c'est intéressant, ce matin, du coup je suis allé à la maison, j'ai préparé tout le billet d'avion, les transports, vite fait. Et j'avais décidé de faire ça parce que c'était nécessaire pour que ça fonctionne de partir mercredi. Mais en même temps, j'ai décidé que je laissais tout ce qui est émotionnel pour après. Et j'ai vraiment consciemment décidé de ne pas ouvrir cette porte là pour pouvoir pleinement vivre Wessak, pour pouvoir pleinement réfléchir et rentrer dedans, réfléchir au discours, voir ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous, ressentir cette nuit m'y préparer parce qu'elle m'est chère, elle m'est très chère en fait. Wessak, c'est vraiment. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la nuit de la. On l'appelle la pleine lune du Bouddha, où paraît-il. Il est né à la pleine lune de mai. Il a trouvé de l'illumination, quoi que ce soit que ça veuille dire, à une pleine lune de mai, et il est décédé à une pleine lune de mai. Donc c'est ce grand festival bouddhiste, et dans tous les pays bouddhistes, il y a des milliers, des dizaines de milliers de gens qui méditent. Et c'est aussi pour moi un moment très important parce que c'est la troisième année qu'on le fait. Et j'ai vraiment senti sur ma pratique que ça avait beaucoup d'impact. Que c'était très porteur. première année a été absolument émerveillante cette nuit. Et c'est la dernière année, par contre, a été une bataille toute la nuit. Après un quart d'heure que j'étais assis, je commençais déjà à piquer du nez. Ça a duré toute la nuit. Mais dans ce combat aussi, j'y ai trouvé quelque chose. Et c'est, voilà, c'est un moment qui m'est cher. Et donc, j'avais envie, en fait, de préserver ce moment que je prépare depuis si longtemps. Et j'ai trouvé étonnant, en fait, de pouvoir décider de reporter le vécu des émotions du décès de mon père à demain. C'est étonnant, hein, de pouvoir faire ça. Et je m'interrogeais un peu là-dessus. Et je me disais qu'en fait, déjà, on fait tous ça, quelque part. Et c'est même un des grands dangers et une problématique de l'humain, parfois. C'est de même refuser de vivre certaines émotions et de trouver des techniques pour les repousser, notamment de se déborder. Comme ça, il y a des histoires qui ne peuvent jamais vraiment remonter. On laisse ça pour plus tard parce qu'on a toujours quelque chose de plus urgent à faire. On pourrait faire un parallèle d'ailleurs avec l'état planétaire face au climat, par exemple, où on est toujours débordé de situations urgentes et du coup, ce qui est vraiment important, on n'a pas le temps maintenant. Voilà. Et en fait, c'est une stratégie, une capacité humaine. Mais c'est aussi, dans la pratique de la méditation, la capacité de choisir ce qui est important maintenant et de laisser son esprit là. Et de ne pas le laisser partir dans tous les sens. Si on voit que ça va être complètement inefficace, agitant. Voilà, et donc du coup j'étais étonné en fait, j'ai pu faire ça. On verra demain par contre j'ai l'intention d'ouvrir la porte, on va voir si j'en serai capable aussi, et puis voilà. Et donc ça aussi, ça fait partie de ce qu'on apprend en méditation. Alors les rossignols sont avec nous, ils vont être avec nous toute la nuit, un peu plus calme entre minuit et 3h30, mais à partir de 3h30, pour ceux qui sont toujours là, ils vont venir nous soutenir. Donc c'est un événement qui est complètement en silence, ici sur le terrain et chez vous si vous pouvez. C'est important, je pense, de respecter ce silence. Même quand vous allez là-bas, surtout n'abordez pas quelqu'un pour lui dire quelques mots, parce que peut-être lui, pour lui, c'est vraiment très important d'être en silence. Comment ça va fonctionner pour nous ici? Alors pour vous, je ne sais pas chez vous comment vous avez arrangé, comment vous avez créé votre contexte. Certains d'entre vous vont peut-être juste écouter le discours. Je vois que certains sont en famille, certains sont à plusieurs. Certains d'entre vous ont peut-être l'intention d'essayer de faire toute la nuit et d'autres méditer un petit peu ou méditer le plus qu'on peut et puis aller dormir. Ici, nous, on a la possibilité de rester ensemble dans cette tente toute la nuit et de se lever quand on en a envie. Il y a du chai, il y a de la tisane, il y a des biscuits et il y a la lune. Et à n'importe quel moment, quand on sent que c'est le bon moment pour nous, on peut simplement aller faire quelques pas vers la cuisine, regarder un peu la lune, se servir un thé. On a mis des matelas sur la terrasse pour s'allonger aussi, ou allongez-vous dans l'herbe pour regarder la lune, les étoiles. Puis revenez quand vous voulez, vous reposer de nouveau. Et continuez, reprendre. Ou continuez. C'est mieux que reprendre. C'est pas parce qu'on va là-bas boire un thé que ça s'arrête en fait. On peut s'allonger, bien sûr. Si vous endormez, c'est pas grave. Si vous mettez à ronfler et que ça dérange un voisin, alors le voisin, vous avez le droit gentiment de mettre une main sur l'épaule de celui qui ronfle, avec beaucoup de compassion et de douceur. Et ne le prenez pas mal, si vous êtes quelqu'un qui vous est endormi, c'est pas du tout un problème. Pas du tout un problème. Puis certains vont... Parfois on en voit comme ça qui disparaissent, on croit qu'ils vont plus revenir, et puis une heure ou deux après, on ouvre les yeux et on voit « Ah, t'es... » De nouveau assis, retour. Et voilà, il y a du mouvement. Il y en a qui sont là-bas, qui reviennent ici. Il y en a qui étaient allongés, qui sont assis. C'est vraiment important que chacun vive cet événement pour lui-même et en fasse ce qu'il sent. Une des choses intéressantes de cet événement aussi, c'est que c'est rare qu'on médite sans avoir une limite. Souvent, beaucoup d'entre nous méditent avec un timer ou un temps donné. Et là, non. Quand on démarre la méditation, on laisse le temps couler. Puis on en a l'intention de bouger, puis on se dit, oh, la nuit va être longue, je vais encore rester un peu si je bouge déjà maintenant. Et du coup, on y retourne. On reste encore un peu. Le temps joue. Il se passe des choses. Ah, bien sûr, j'ai réfléchi à la mort pour mon discours. Dans l'histoire de Bouddha, même, je veux dire, au début de son histoire, telle qu'on la raconte, c'est... une des raisons pour lesquelles il a quitté son palace, c'est de se rendre compte qu'il y avait la mort au bout du chemin. Dans l'histoire, alors je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais dans l'histoire, son père, qui était roi, avait essayé de le préserver de la prise de conscience de la mort, de la souffrance, de la vieillesse. Et parce que son père avait peur que, du coup, il devienne un moine errant, ce qui avait été prédit en fait. Son père voulait qu'il devienne son successeur et qu'il devienne roi après. Et du coup, son père s'était dit, je vais l'envelopper de sécurité, je vais l'envelopper de facilité, de tout ce que quelqu'un désire, de manière à ce qu'il n'éprouve pas cette souffrance qui met l'homme en chemin. Que ce soit une réalité historique ou bien une métaphore, ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Ça nous dit quelque chose par rapport à comment la souffrance et comment le fait de savoir qu'on va mourir nous met en chemin, nous travaille constamment. Et en fait, en réfléchissant à cette inévitabilité de la mort, je me rendais compte qu'il y a quelque chose de particulier, c'est que... quelque part, si je dis on va tous mourir, c'est un peu comme enfoncer une porte ouverte. C'est-à-dire, c'est pas une grande révélation. Tout le monde était au courant. Tout le monde va me dire, oui. C'est un peu comme une évidence, en fait. Mais en même temps, si on regarde comment on vit un peu comme si on était immortel. On vit un peu comme si les choses duraient. Que ce soit les petits événements, comme si ça allait durer tout le temps comme ça, ou que ce soit notre propre événement de notre vie. À la fois on le sait, et à la fois ça ne se reflète pas vraiment dans la manière dont on vit. On ne vit pas constamment comme si on était conscient que ça peut être le dernier moment. On ne vit pas comme ça. Et d'ailleurs, ça fait partie vraiment d'une pratique, et de différentes pratiques dans le bouddhisme, de prendre conscience de la mort. Même certains maîtres de méditation définissent la méditation comme étant un apprentissage à mourir. Mais encore à un autre niveau, il y a quelque chose en nous qui tout le temps sait ça. Donc oui, il y a vraiment différentes couches. Et du coup, toutes nos pensées, nos ressentis, la manière dont on vit, sont infusées par ce savoir. On a grandi avec, on essaye d'être quelque part, de ne pas le voir, ou on essaye de le fuir, ou on essaye de l'accepter. C'est probablement la plus grande partie complètement inconscient, mais c'est là quelque part. C'est là quelque part, ce savoir. Et ça infuse, il me semble, la manière dont on ressent chaque chose, dont on pense, dont on décide, dont on choisit, dont on donne priorité. C'est là quelque part. Et c'est ça qui nous rend vivants. C'est ça qui rend aussi, qui donne une importance, une brillance aux choses. C'est le fait qu'elles ne vont pas durer. Elles ne vont pas durer parce que nous, on ne va pas durer. Et donc Bouddha, un jour, il est sorti, enfin, c'était pas Bouddha, c'était Siddhartha Gautama. Un jour, il est sorti, donc ça, c'est toujours la petite histoire. Hein. Il a quitté le château pour aller voir un petit peu ce qu'il y avait en dehors. Et là, il a vu des gens en souffrance, des personnes âgées, proches de la mort. Il a vu passer un corps, un lépreux. Ouais, il était en contact en fait avec des situations très souffrantes et très difficiles, et ça l'a profondément mué. Et ça l'a remué, et ça l'a remué suffisamment pour quitter son palais. Alors ça, je trouve ça énorme. Quitter son palais, quitter toutes les facilités, quitter sa femme, quitter son fils, quitter ses beaux vêtements, quitter tout. Parce que il s'est dit qu'il y avait peut-être une solution à la mort ou et à la souffrance. Et ça, je trouve ça énorme. Et là, je pense que ça, je viendrai plus tard. Je trouve ça dans l'histoire. Je trouve ça absolument étonnant en fait qu'il ait eu cette idée qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait mettre une fin à la souffrance, même aux plus petites, même aux plus petites insatisfactions qu'on trouve dans la vie, et trouver une solution à la souffrance et à la mort. Là, c'est une idée abracadabrante. C'est en fait c'est une idée de gamin, ça. C'est des idées quand on est en France, des idées un peu fantastiques, qui sont difficiles à cultiver quand on devient adulte. Et lui, il les a cultivées. Et lui, il y a cru. Il a cru qu'il y avait une solution et il s'est dit, bah, je vais aller chercher la solution. Et il a tout quitté. Sacrée confiance. Et donc Bouddha, pour moi, comme je le vois, c'était un chercheur. Et ça c'est une notion qui m'est chère. C'était pas quelqu'un qui était en difficulté émotionnelle et qui cherchait la paix de l'esprit. C'était un chercheur, ce qui est tout à fait ok, hein, mais lui, dans son attitude, il allait chercher la racine de la vie. Il allait chercher à la racine une solution à la souffrance pour lui-même et pour tous les gens qui l'entourent. Pour tous les êtres vivants, en fait. C'était son intention. C'est pour ça qu'il est parti. Pour lui-même et pour tous les êtres vivants. Ça ressemble à un conte pour enfants. Mais lui, il l'a cru. Et lui, il y a été. Et lui, il a tenu le truc. Et je pense que c'est ce qui me parle le plus dans la pratique de la méditation, en fait. C'est cette attitude de chercheur. Et c'est ce que je pense que on pourrait essayer de cultiver cette nuit. C'est l'attitude du chercheur. Pour moi, je ne vais pas m'asseoir en espérant avoir la quiétude la plus grande et le moins de pensées possible et le plus de moments de bien-être possible. C'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est un contact, c'est à faire des découvertes sur ce que c'est être humain. Je cherche à faire des découvertes sur la nature de la conscience. Je cherche à faire des découvertes sur la naissance de tous les phénomènes observables. C'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me parle. Et du coup, c'est en fait la curiosité. Et ça, c'est peut-être le troisième moteur. La conscience de la mort qui nous travaille. Soit on se déborde pour ne pas la sentir, on fait tout un tas de trucs, chouette ou pas. Mais on se déborde. Soit elle nous paralyse, soit on se met en chemin pour, étant conscient de la mort, essayer d'aller voir au plus profond qu'est-ce que c'est la mort. Donc il y a la conscience de la mort, il y a la souffrance. À chaque fois qu'on éprouve de la souffrance, ça nous travaille et les grandes souffrances sont souvent des grands moments d'ouverture. Et il y a la curiosité. La conscience de la mort, la souffrance qui nous travaille, la curiosité, je pense, pour moi en tout cas, là, comme ça, ce serait peut-être les trois moteurs de ce qui nous met en marche et qui fait qu'on s'assoit toute une nuit à rien faire. Je vois pas d'autre grande raison. Bah, peut-être, hein, mais là, elles ne me viennent pas. Et un jour, on demandait à Einstein quelles étaient, d'après lui, les raisons de son génie. Ce qu'il a découvert, c'est phénoménal, la quantité de choses. Il a quand même révolutionné la science à son époque, la physique, avec des idées. On se demande comment il a pu les avoir. Hein, le lien entre l'espace et le temps, que les deux choses sont interdépendantes et indissociables, fallait y aller quand même. Et puis de réussir à les démontrer. Et donc on lui demandait d'où venait son génie. Et en fait, sa réponse, elle est intéressante. Il dit, je pense que j'ai grandi très doucement. Et j'ai continué à me poser des questions d'enfant quand j'étais grand. Et Einstein, il se voyait assis sur un rayon de lumière, à 300 000 km seconde. Et il se demandait ce qu'il voyait alors. Et il était dans un ascenseur. Et il disait, si j'étais dans l'espace et qu'il n'y a pas de gravité, mais que je suis propulsé par un moteur, qu'est-ce que je sens? Il se posait tout un tas de questions comme des gamins. Comme un gamin, sauf que ces questions, il les tenait dans la longueur. Elle le travaillait et il cherchait avec toutes ses compétences aussi d'adulte. Mais c'est cette capacité de l'enfant à s'étonner et à chercher d'une façon absolument non conventionnelle. On en fait rien à foutre de ce que les autres en pensent de notre manière de chercher. Juste chercher. Et récemment, je lisais aussi. J'entendais parler en fait d'un mathématicien de génie dont j'avais jamais entendu parler avant, qui s'appelle Alexander Grothendieck, si je prononce bien, je suis pas sûr, je l'ai vu écrit donc. Et lui, il a une histoire. Il a une histoire incroyable, cet homme-là. Donc, il est né à Berlin en 1928. Son père était juif. Ils ont fui l'oppression. Son père a été arrêté et mort dans un camp de concentration. Il est venu en France avec sa mère. Ils ont vécu en faisant, elle déménage, lui les vendanges. Et puis il y a 20 ans, il y a un de ses instits qui l'a repéré parce qu'il était vraiment très très bon en maths. Très très bon en maths. Il y a 20 ans, son institut l'a envoyé à Paris à un congrès, et là, il a rencontré des gens et des pointures. Et là, visiblement, ils étaient assez étonnés en fait de ses capacités, si jeunes. Et donc, il y a un des mathématiciens qui lui a donné, qui avait écrit un livre, et à la fin du livre, il y avait les 14 questions non résolues des mathématiques. T'en as entendu parler, Françoise? C'est des histoires comme voilà comme dans Walt Disney ou ce genre de choses. Et alors en fait ces 14 questions, je lisais un bouquin dans lequel l'auteur parlait de lui et il disait c'est le genre de question où quelqu'un qui fait une thèse de fin d'année va prendre une de ces questions-là, va bosser 3 ans dessus aidé par son maître de thèse et puis va arriver avec une proposition intéressante de réponse à une de ces questions. Et lui, tout seul, en quelques mois, il a ramené des solutions aux 14 questions. Du coup, ça a amené plein feu sur lui. Là, on a quelqu'un d'autre, là, les gars. Et du coup, il s'est fait un institut. Il est monté au sommet des mathématiques. Il a révolutionné la manière dont on comprend les mathématiques, dont on envisage les mathématiques. En fait, il a changé le sens même des mathématiques. Il a travaillé à des projets fantastiques et énormes avec des grosses équipes. Il a eu tous les prix possibles et imaginables en mathématiques. Vers la quarantaine, je pense, il a quitté en fait tout le monde de la science. Il a été s'installer pas loin d'ici, dans les Pyrénées, là, je crois que c'est dans les Pyrénées-Orientales, quelque part. Et là, en fait, il s'est investi dans l'activisme pour l'écologie. Il a arrêté les mathématiques, s'est investi dans l'activisme pour l'écologie pendant une quinzaine d'années. Et puis là, après, il est carrément, hop, il est devenu ermite. Il a essayé de vivre notamment avec que de la soupe de pissenlit. Il a écrit des milliers et des milliers de pages sur le problème du mal, par exemple. Et il a écrit un bouquin qui vient de paraître, et qui, dans lequel il parle des mathématiques et de comment il s'y prend et qu'est-ce qui était beau en lui dans les mathématiques. Et en fait, ce qui est très intéressant et qu'on n'a pas eu d'Einstein, c'est que lui décrit vraiment son processus intérieur. Pourquoi il prend du plaisir et quand est-ce qu'il prend du plaisir aux mathématiques. Et il dit exactement la même chose qu'Einstein dans ce livre. Il dit comment est-ce qu'il le formule? Est-ce que je l'ai là? Pas beaucoup de lumière, donc il faut que je me rallonge un peu les bras. Ah, j'ai une lampe de poche quelque part, ne bougez pas, ça va aller tout de suite mieux. Je vais vous lire un ou deux passages de ce qu'il y a dans ce livre. Il dit: ce qui mène et domine dans mon travail, ce qui en est l'âme et la raison d'être, ce sont les images mentales qui se forment au cours du travail pour appréhender la réalité des choses mathématiques. Donc, c'est les images mentales qui se forment en lui. Toute ma vie, j'étais incapable de lire un texte mathématique, si anodin ou simpliste soit-il, lorsque je n'arrive pas à donner à ce texte un sens en termes de mon expérience des choses mathématiques. C'est-à-dire lorsque ce texte ne suscite pas en moi des images mentales, des intuitions qui donneraient vie. Qui lui donneraient vie, pardon. Je cherche une autre citation de son livre. Une autre citation, c'est Grothendieck donne une autre explication. Ce qui fait la qualité de l'inventivité et de l'imagination du chercheur, c'est la qualité de son attention à l'écoute de la voix des choses. Voilà, le passage que je cherchais, en fait, je ne le trouve pas. Mais donc, de mémoire, il dit que. Un peu la même chose que ce que disait Einstein, en fait, c'est que. Les découvertes, pour vraiment faire une découverte, il faut l'esprit du petit enfant. Il dit seul l'esprit du petit enfant, qui s'en fout de ce que les autres pensent, qui s'en fout de comprendre avant d'essayer, juste essayer, n'importe quelle manière, essayer. Cet esprit du petit enfant, c'est l'esprit qui fait des découvertes. Et là, dans la pratique de la méditation, je sens qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Donc, comment est-ce qu'on médite? Comment est-ce qu'on fait des découvertes en méditation? C'est pas, pour moi, le fait de poser l'esprit n'est pas une fin en soi. Non, pas du tout. Juste, si on arrivait si on a des stratégies pour avoir l'esprit paisible pendant la méditation, et que c'était ça une fin en soi, ça serait assez inintéressant finalement, au final. Assez inintéressant. L'esprit paisible, c'est juste le bon contexte pour commencer à voir clair. Mais ce qui est important, c'est de voir clair, c'est pas d'avoir l'esprit paisible. Et quand on a l'esprit paisible, à ce moment-là, il est important de plonger dans l'expérience et de ramener. Il faut qu'en fait, à l'intérieur, on cherche quelque chose. Il faut qu'il y ait une curiosité, qu'il y ait une recherche, une démarche active. Comme Einstein, Einstein, il disait, je travaille doucement, mais je travaille tout le temps. C'est tout le temps là. C'est tout le temps là. Ça ne s'arrête jamais. C'est tout le temps là. Et c'est le fait que ça soit la question, elle est là. Elle est vraiment là. Une question toujours. C'est les questions que portent les enfants. Si on prend la mort, elle n'est pas tout le temps là pour nous, cette question de la mort. Voilà, on a plus ou moins accepté, ou mis de côté, ou mélange des deux. De temps en temps, ça revient un peu, surtout quand quelqu'un de proche décède. Et puis ça repart et on continue à vivre, mais elle n'est pas tout le temps là, cette question de la mort. Elle pourrait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la mort? Ah, ça, c'est des questions nouveaux que notre gamin, il peut nous poser. Mais nous, adultes, on ne se la pose plus. Et ça, c'est ce qui manque, je pense. C'est qu'on ne continue pas à se poser vraiment des questions fondamentales. Parce que si on se demande qu'est-ce que c'est la mort, il va falloir, très vite, on va se rendre compte que pour pouvoir explorer cette question, il faut savoir qu'est-ce que c'est la vie. Qu'est-ce que c'est qui meurt? C'est quoi qui meurt? Est-ce que tout meurt? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne meurt pas? Ah, c'est des questions qui viennent avec, ça. Et je pense que Bouddha, il avait, donc Siddhartha Gautama, qui n'était pas encore Bouddha à l'époque, il portait ces questions. Et il les a portées, et il les a, elles prenaient tout l'espace de son intérêt au point de quitter sa femme, son fils, son royaume, sa destinée, son confort. Tout quitter parce que ces questions étaient bouillantes. Comme quand un enfant a vraiment une question. Ça reste bouillant, ça reste là, ça s'en va pas comme ça. Et dans notre spiritualité, si on n'a pas ça, alors qu'est-ce qu'on fait? On pratique des techniques. Ça fait du bien. C'est pas inutile. Mais je pense pas que c'était ça l'attitude du Bouddha au départ. Et il a fait comme un gamin, il a essayé plein de trucs. Les gamins, ils font comme ça, ils essayent des trucs. Ils se mettent pas à y réfléchir pendant des heures et tout, ils pressent sur tous les... Voilà, Lanza, il vient... Donc mon fils, 11 ans, il vient d'avoir un portable. En 3 jours, il savait faire 5 fois plus de trucs que moi sur son portable. Mais il n'a pas lu le mode d'emploi. Hein. Il a touché à tout. Il a appuyé sur tous les boutons. Même il y a des moments, ça ne marchait plus. Il a désactivé des trucs. Mais c'est ça. Il essaye tout. Et je pense que nous, en méditation aussi, il faut qu'on essaye tout. Il faut qu'on ait des idées. Tiens, je vais essayer ça. Et là, je m'assois, je médite. Bah tiens, vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de fixer mon attention de manière à me sentir conscient et puis je vais essayer de sentir ce que c'est que d'être conscient. Je vais essayer d'être conscient de la conscience. Voilà. C'est une idée, c'est une bonne idée. Hein. Et du coup, il y a des moments où je suis distrait, ok? Ok. Je suis distrait, tac, je ramène. De nouveau, je me ressens conscient. Ah, ben c'est ça que je cherche. C'est ça que j'explore. C'est ça ma question. Je suis avec l'objet de ma recherche. C'est pas un but en soi que d'être présent. Et si à un moment on est assis, et ça garantit, ça va arriver. Hein. À un moment, on est assis et puis on se dit, ah, là, ça serait peut-être bien le moment d'aller boire une petite tasse de thé. Qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas? Juste pour voir. Est-ce que l'envie reste ou est-ce qu'elle s'en va? On pourrait essayer, là, une dizaine de minutes. Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que l'envie reste, ou peut-être qu'elle reste pas. Peut-être qu'elle s'en va et qu'elle revient. Peut-être qu'elle revient toutes les 5 minutes, ou peut-être qu'il y a des moments où il y a des intervalles plus longs. Peut-être que si elle revient, je me dis, bah, pas encore là, je reste. Juste pour prendre des petits défis, jouer. En fait, c'est jouer. C'est jouer, c'est tout le temps jouer. C'est jouer à découvrir ce qui se passe si je fais ça. Hein, c'est ça qu'ils font les enfants. Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Hein, si je vois Lanza, nous, mon fils, il arrête pas de faire. Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et il touche toutes les limites. Toutes les limites. Et si je dis non? Et si je dis non même quand il gueule, qu'est-ce qui se passe? Hein? Et jusqu'où ça peut aller? Il essaye. Il essaye tout pour savoir. Et nous aussi, il faut qu'on essaye tout. Pour devenir, c'est la citation de, comment est-ce qu'il s'appelle, Niels Bohr, qui est un prix Nobel de science, qui disait, un spécialiste, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs possibles dans un domaine précis. C'est ça, un spécialiste. Il a tout essayé, il s'est planté partout, et du coup, il est devenu spécialiste du truc. Et nous aussi, en méditation, il faut qu'on essaye tout. Faut qu'on ait des idées et qu'on les essaye. Et qu'on ait des idées et qu'on les essaye. Enfin, je dis ça comme si c'était une vérité ultime, mais c'est ma manière de méditer. C'est ce qui, moi, me passionne. Là, il a essayé des trucs, c'est délire. Hein. Il a été voir un maître de méditation, et puis voilà, il a appris plein de trucs, mais c'était pas ça qu'il cherchait. Il est parti, il a été voir un autre. Il a appris plein de trucs, c'était super intéressant, mais c'était pas ça qu'il cherchait. Il est reparti. Du coup. Il s'est dit qu'il allait essayer de tuer le désir. Ah, c'est des idées de gamin, ça. Il a essayé de tuer le désir. C'est-à-dire, dire non à tous les désirs jusqu'à ce que ça s'arrête. Tout. Donc, il s'est éloigné très loin, pour déjà plus voir les femmes, parce que ça, c'était pas facile. Et puis après ça, la nourriture, pareil, juste des racines. Pas trop. Et... voilà, ça n'a pas trop marché, du coup il s'est affaibli, il a vu que ça ne fonctionnait pas. Alors, il a essayé aussi d'aller s'asseoir dans les forêts les plus réputées dangereuses, habitées par des démons et tout ça, et de ne pas ouvrir les yeux. Vous ne reconnaissez pas l'enfant là ? Je vais aller m'asseoir dans la forêt, il y a des démons, et je ne vais pas ouvrir les yeux quand j'ai peur. Mais c'est ça, hein ! Il l'a fait, il a tout essayé. Mais avec des questions, d'une profondeur, des questions qu'on porte en nous. Ces questions-là, on les porte tous. Certains sont un peu plus conscients, d'autres un peu moins conscients. Certains sont plus intuitivement amenés à sur des chemins qui permettent d'approfondir notre connaissance de ce domaine, de ce que c'est être humain, et d'autres pas du tout. Mais fondamentalement, tout le monde porte ces questions. Qu'on le sache ou non, ne serait-ce que la question de qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce qui se passe après la mort, qu'est-ce que c'est mourir, et du coup qu'est-ce qui meurt. Et si on voit des physiciens toujours de nos jours, les questions qui se posent c'est aussi des questions d'enfants. Est-ce que le temps existe vraiment, hein? C'est une grande question, hein. Est-ce que le temps existe vraiment, c'est une question de physique, ça. En physique, on n'a jamais réussi à expliquer le temps. Parce que le temps n'est pas un objet qu'on perçoit avec les cinq sens. C'est pas visible avec les yeux, on peut pas l'entendre, on peut pas le goûter, on peut pas le toucher, on peut pas le sentir. Ce n'est pas un objet des sens. Du coup, ça peut aussi être une question en méditation. Qu'est-ce que c'est le temps ? Comment ça fonctionne le temps ? Comment est-ce qu'on sait que le temps passe ? Et on peut remarquer, et la nuit de Wessac, pour ça, c'est quelque chose de fantastique, parce que le temps, parfois il est long. Hein. Et puis parfois, alors là, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Là, il vient de passer 2 heures. C'est pas trop, quoi. Et comme ça, il se comprime et il se dilate et il se comprime et il se dilate et il bouge. On sait déjà que, en physique, on sait que le temps n'est pas une notion fixe. On le sait depuis Einstein. Mais en nous, on peut le sentir aussi, que le temps n'a pas cette solidité qu'on lui prête. C'est une notion, le temps. J'ai déjà entendu dire que c'était même la notion la plus complexe à acquérir pour les enfants. Faut beaucoup de temps pour pouvoir acquérir cette notion de temps. Et les enfants, quand on leur dit demain, ça marche pas bien. Parce que c'est, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut longtemps avant que ça veuille dire quelque chose demain. Les Indiens, ils s'en sortent pas trop non plus en Inde avec la notion du temps. Et c'est rigolo parce que eux, ça fonctionne pas pareil, c'est cyclique et tout ça. Et du coup, j'ai jamais trop compris d'ailleurs ce que ça voulait dire. Mais bon, ils ont un mot pour le temps. Le mot hier et demain, c'est le même. Kal. C'est pas du tout pratique. Parce que en plus, comme ils accordent, donc il faut attendre le verbe qui est à la fin de la phrase parce qu'il sera accordé au futur ou au passé. C'est seulement, donc ils disent Kal. Mais Ider, il commence une phrase, et ben on ne sait pas s'il parle de demain ou d'hier. C'est seulement quand il y a le verbe qui arrive qu'on voit en fonction de comment il est accordé si c'est, ça sera demain ou si ça s'est passé hier. Et après, ils ont persan, c'est après-demain, nersan, c'est après-après-demain ou avant-hier et avant-avant-hier. Et d'ailleurs, quand ils parlent anglais, les Indiens, s'ils ne parlent pas bien, ils vont dire yesterday pour demain, où il est. Il n'arrive pas très bien, enfin, bon, ça se mélange un peu. C'est pas facile la notion du temps, c'est une notion vachement complexe à acquérir. Et en lien avec la mémoire, si on n'avait plus de mémoire, il n'y aurait peut-être plus de notion du temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Si à un moment, la mémoire n'est plus active, est-ce qu'il y a encore le temps? Il y avait un article dans c'était un Science et Vie. Alors avec un grand titre qui pète bien comme ça, c'est très vendeur, hein, mais on a vu le début du temps. Avec l'approche avec les mégatéloscopes du Big Bang, là, du début du temps. Le temps, en fait, nous on ne le connaît pas. Ce qu'on connaît, c'est le mouvement. On voit le mouvement avec les yeux, on voit le mouvement du soleil qui se lève là et qui se couche là, et on appelle ça une journée. On voit l'aiguille qui fait le tour d'un cadran, et on appelle ça une heure. Mais c'est pas le temps qu'on voit, c'est le mouvement. Le temps, on ne le voit pas, on ne peut pas le voir. C'est une notion acquise. Et ce qui est intéressant, c'est que si cette notion-là était acquise, on pourrait en acquérir une autre, ou on pourrait avoir une notion différente du temps. D'ailleurs, il y a des cultures dans lesquelles la notion, comme je le disais pour l'Inde, il y a d'autres cultures dans lesquelles la notion du temps est très très différente. Et en méditation, on sent ça. On sent que cette notion du temps se désolidifie. D'habitude, on a une notion du temps très liée à la montre. Et très, donc très mental quelque part. Mais en méditation, quand de temps en temps l'esprit se pose, qu'il y a moins d'activité, il peut y avoir des longs moments sans que rien ne se passe, et on a l'impression que le temps s'arrête, qu'il a fait un bond, qu'il y a un décalage. Je pense que c'est quand il y a des mouvements d'esprit, quand il y a de l'activité, il y a du temps. Moins il y a d'activité, moins il y a de temps. Plus d'activité, plus de temps. Ça me fait penser à une citation de Bouddha, puisque c'est quand même un peu de lui qu'il s'agit cette nuit. C'est, en fait, c'est une histoire. Un jour, dans un de ses monastères, vous savez, il avait les monastères, c'était des terrains qui étaient donnés par des gens qui appréciaient sa spiritualité, et dessus vivaient des moines. Et lui voyageait 9 mois par an, il s'arrêtait juste pendant les 3 mois de la mousson. Il voyageait et il allait voir les communautés qui habitaient sur des terrains, on appelait ça des monastères. Et il avait des discussions, des enseignements. Et un jour dans un monastère, enfin un soir plutôt, il rassemble les moines et il leur dit, moine, je vous dis que vous pouvez marcher toute votre vie durant dans la même direction, vous ne verrez jamais le bout du monde. Et pourtant, je vous dis que si vous ne voyez pas, vous ne verrez jamais la fin du monde. Et pourtant, je vous dis que si vous ne voyez pas la fin du monde, vous ne trouverez jamais la fin de la souffrance. Et là, il se lève et il se barre. Il rentre dans sa hutte. C'est vrai, hein, c'est comme ça que les textes le disent. Il se lève, il rentre dans sa hutte. Et les moines sont là. Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire avec ça? Et ça arrivait souvent, il faisait souvent ça. Il lance un pavé dans le truc, là, et puis il s'en va. Et là, il y avait... je crois que c'était celui qu'on appelait le Vénérable Ananda, qui était un de... Je crois que c'est son cousin, qui avait une mémoire phénoménale, donc il le suivait tout le temps, et comme il, pour se rappeler de ses enseignements. Et comme il le suivait tout le temps, c'était aussi un de ceux qui avait une meilleure compréhension de ce qu'il voulait dire, qui avait le plus l'habitude de comment il s'exprimait, et aussi qui avait été loin dans cette étude de cette approche du Bouddha. Et il disait, en fait, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne trouvera pas une fin à la souffrance, qui était le but du Bouddha, et donc une fin même à la mort. On ne trouvera pas une fin à la souffrance si on ne trouve pas en nous la fin du monde. En nous. Qu'est-ce que ça veut dire, la fin du monde en nous? Je pense qu'il parle là, c'est phénoménologique, c'est au niveau de notre expérience. C'est bien en nous. C'est pas aucune notion de fin du monde à l'extérieur ou le monde qui s'arrête. Ce n'est même pas cette notion quantique que quand on observe le monde, il existe et que quand on n'observe pas, il n'existe pas. Ce qui est aussi très intéressant, aussi à explorer. Mais là, je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'il voulait juste dire en méditation, quand plus rien ne se produit, quand l'esprit ne construit plus une réalité, quand l'esprit n'est plus suffisamment actif pour construire une perception, parce que la perception, ce qu'on perçoit, est construit. Ah, ça fait très longtemps que c'est connu en philosophie, ça fait très longtemps que c'est une notion qui existe notamment dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, et qui est depuis assez récemment vérifié aussi dans les sciences modernes, les neurosciences et tout ça, c'est que il y a besoin d'une activité cérébrale pour que la réalité apparaisse. C'est-à-dire que les signaux qui sont reçus sont interprétés d'une façon cohérente et nous ramènent une perception. Et la fin du monde en soi, c'est dans ces moments de grande quiétude, quand il n'y a plus aucun intérêt et que l'esprit n'est plus en mouvement pour essayer de « Oh, une petite tasse de thé, oh, j'aimerais bien atteindre ceci, oh, j'ai pas envie que cette douleur reste. » Quand il y a une totale acceptation des choses, quand il n'y a plus aucune saisie, quand on ne va plus rien chercher, quand on ne repousse plus rien, quand il y a une égalité totale, quand il y a une indépendance, on ne cherche plus dans cette réalité qui se présente à nous, on ne cherche plus la réponse à ce qu'on cherche profondément. J'espère que vous me suivez. C'est une phrase un peu... L'esprit se pose. Si l'esprit se pose suffisamment, il n'est plus actif. Il ne fabrique plus. Et ça, on peut le remarquer en méditation. Il y a des moments où on est là et l'esprit fabrique moins. Et il y a des moments où on est là, l'esprit fabrique plus. Quand l'esprit fabrique beaucoup, par exemple, si dans une situation, si je suis assis en méditation et je me rappelle cette fois où mon voisin m'a insulté, à ce moment-là, l'esprit va fabriquer beaucoup. Toute une histoire, des ressentis, va ramener tout un passé, il va y avoir beaucoup de couleurs, beaucoup d'émotions, beaucoup de paroles, beaucoup de moi, beaucoup de, il va y avoir un sens de moi très solide. J'existe, et il y a moi, et il y a cette situation, et il y a moi, et il y a ce voisin, il y a tout un monde qui est là, qui est une fabrication. Moi, je suis assis là dans l'attente. Mais il y a des moments où il n'y a pas cette fabrication. Peut-être 2 minutes après, c'est fini, si je n'ai pas été pris. Il n'y a pas cette fabrication. Et s'il y a moins de fabrication, il y a moins de cette sensation de moi, et il y a moins de cette sensation de temps. Le moi et le temps vont et viennent en même temps. Ils sont codépendants, interdépendants. Dans le bouddhisme, il y a cette notion que c'est l'esprit qui fabrique la réalité perçue, tous les phénomènes. Donc on parle d'une façon phénoménologique pour le moment, N'allons pas vers une notion de que le monde extérieur dépend de la fabrication de mon esprit, mais dans la manière dont on perçoit le monde. Et tout phénomène est fabriqué par l'esprit. Et l'esprit est aussi le spectateur de ce qu'il fabrique. L'esprit est le sujet qui perçoit sa fabrication. Vous y croyez, vous, à ça? Ça s'explore. Ça s'explore. C'est pas super important. C'est pas intéressant même d'y croire. C'est comme croire qu'il y a quelque chose après la mort. C'est pas très intéressant. Croire qu'il n'y a rien après la mort non plus. C'est de porter une question. C'est quoi qui perçoit? D'où vient la perception? C'est quoi la conscience? Est-ce qu'il y a une conscience d'un côté et puis des perceptions? Et cette conscience perçoit ses perceptions? Est-ce que c'est possible d'être conscient et de ne rien percevoir? C'est des questions. C'est des questions à explorer. C'est des directions à suivre. Et chacun trouve sa manière. Moi, j'ai jamais été trop fan d'une technique pour tous. Ah, il y a beaucoup d'enseignements où c'est, voilà, pratiquez cette technique de cette manière-là et vous arriverez au résultat. Ah, et je pense que c'est bien qu'il y ait des enseignements comme ça. Ça aide certaines personnes parce que ça fonctionne bien pour eux comme ça. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut quand même quitter ça et reprendre sa propre indépendance et créer soi-même sa méthode de recherche. Moi, récemment, donc ça fait très longtemps, en fait, je me lève tôt pour pratiquer. Et là, il y a depuis un an, en fait, j'ai une pratique un peu rigolote qui s'est installée. C'est que, après avoir fait un peu mes échauffements physiques, je marche dans le salon. Et je marche. Je fais le tour de la petite table, je fais le tour du canapé. Souvent, je fais des 8 comme ça. Parfois, Lydia, elle change l'agencement des meubles, et puis du coup, ça change un peu mon parcours. Mais je marche, et parfois, ça peut durer une heure. Et je marche, et je pense. Et je pense à ce dont je vous parle maintenant. Je me pose ces questions, j'y réfléchis. Et puis, de temps en temps, je vois le corps qui marche, et l'esprit qui pense, et la conscience qui perçoit. Je reprends ce point de vue. Donc, je marche et je pense, et puis à un certain moment, et ça fait partie de ma pratique, je reviens à une autre manière de voir la même situation, qui est le corps marche, l'esprit pense, la conscience perçoit. Et ça me fait quelque chose de revenir à ça. Et du coup, la conscience perçoit. Hop, du coup, je me sens être la conscience qui perçoit. Ça fait des mouvements où je suis complètement absorbé dans mes pensées, et puis des mouvements où j'en ressors. C'est ma manière d'explorer. Ça vaut la peine d'être testé si ça vous paraît pas trop décalé. Ça peut être testé là, tout à l'heure, dans le champ, quand vous allez boire un thé, quand la tasse est finie, peut-être avant de revenir ici. Pourquoi pas marcher un petit peu, simplement, et juste voir le corps qui marche et l'esprit qui pense. Sentir la conscience qui est là. Sans la conscience, est-ce qu'il y a un corps qui marche? Est-ce qu'il y a un esprit qui pense? Pour aller vers une conclusion, je pense que ce que le Bouddha a fait, quand il a quitté son royaume, c'est que il a senti en lui des questions qu'il a réussi à formuler. Peut-être il lui a même fallu du temps pour formuler ces questions, pour savoir en fait ce qu'il poussait. Mais il a senti qu'il y avait des questions, il a suivi ça, et il a trouvé ses manières d'aller chercher des réponses. Il a suivi sa quête à sa manière. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire. Et je pense que ces questions-là, on doit les connaître pour nous-mêmes, aussi dans la nuit de Wessac. s'installer avec qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on cherche, c'est quoi qui est mystérieux, qu'est-ce qu'on trouve mystérieux en fait dans notre expérience d'être humain. Faut pas se laisser, je pense. Il y a des concepts dans ce genre de discours, il y a des concepts extrêmement complexes qui sortent, des trucs où peut-être vous sortez, mais en fait j'y comprends rien, ou mais qu'est-ce que ça a à voir en fait avec ma vie, ou ce genre de choses. Il en parle d'ailleurs dans ce bouquin, c'est David Bessis qui écrit le bouquin dont j'ai lu un extrait là, dont il parle notamment de Grothendieck. Il dit, mais les mathématiciens, quand ils vont à une conférence, et tous les mathématiciens diront, ils savent qu'ils vont rien comprendre. Ils savent qu'ils vont rien comprendre, ça va trop vite, c'est trop compliqué. Ils comprennent. Personne ne lit les bouquins de mathématiques. Il dit, ça se lit pas, un bouquin de mathématiques. C'est incompréhensible. Ou alors, il va y avoir éventuellement un bouquin, quelqu'un va le prendre et va faire une étude sur des années et des années. Mais on ne lit pas un bouquin de mathématiques. Mais, de nouveau, comme un enfant, on attrape un petit truc et on suit ça. Et eux, ils vont à une conférence et là, ils attrapent un petit truc et hop, ça nourrit quelque chose. Et de là, ils cherchent. Sans se désespérer en se disant « Ah, j'ai rien compris, du coup, je suis nul, je suis pas capable ». Je suis nulle part et les autres y comprennent et tout ça. C'est pas ça. Les gamins, quand ils sont petits, ils font pas ça. C'est justement quand ils grandissent qu'ils arrêtent. Je le vois, Lanza, il arrête. Il arrête d'être un enfant et il arrête de chercher. Parce que maintenant, il a peur de ce qu'on va en penser. Donc il arrête d'essayer plein de trucs. Et du coup, s'il y a quelque chose où il pense qu'il peut pas être bon, et ben, il va avoir du mal à le démarrer. La peur du regard des autres ou le besoin d'être bon. Les petits gamins, ils n'ont pas ce besoin d'être bon ou la peur du regard des autres ou cette attente que si j'essaye comme ça, il faut que ça marche comme ça ou quoi. Non, il y a un truc là, ils essayent. Et pareil, dans un discours, il suffit d'entendre un ou deux petits trucs, ça suffit. Il n'y a pas besoin de tout comprendre. Et de là, on démarre. Et de là, on se fait sa petite popote, on se fait sa petite méditation et on essaye des trucs, on joue. On joue constamment. Donc, jouer. Voilà. Voilà le conseil que j'ai envie de vous dire. Jouer. Il y a des moments, c'est du combat. Il y a des moments, c'est dur. C'est le chemin du guerrier. Chogyam Trungpa le dit suffisamment. C'est le chemin du guerrier. Super. Super. C'est aussi le chemin du gamin. Voilà. Allez nager dans la rivière. Un moment. Ceux qui veulent. Ah, il y en a plein d'entre nous qui ont été. Voilà. Sous la lune. C'est génial. Ou bien les fesses dans la source. Elle est plus chaude, un peu que la rivière. C'est un peu mieux. Coucher sous les étoiles. Voilà. Ou bien je me couche sous les étoiles. Et qu'est-ce qui se passe quand je m'endors? Est-ce que je peux m'endormir, me laisser m'endormir, mais vraiment avec l'envie de me réveiller vite? Est-ce que ça va marcher? Hein? Ok. On essaye. Peut-être ça va pas marcher. C'est pas grave. Et quand je me réveille, au moment où je me réveille, tiens, où est-ce que j'étais juste avant que je me réveille? C'est quoi qui se réveille? Est-ce que je peux me rappeler? Juste se trouver des jeux, se trouver des petits défis, se trouver des petites choses à expérimenter. Savoir ce qu'on cherche, avoir envie de chercher des choses, trouver. Voilà. Voilà ce que je crois que le Bouddha, il a fait. Une grosse échelle. Quand même, bien. Oui, tout ce qu'il a quitté et tout, nous, c'est très humble. Hein, se coucher dans l'herbe ou les fesses dans la source. C'est très humble. Mais c'est la même chose. C'est le même esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit du Bouddha. C'est l'esprit de l'enfant. C'est l'esprit du chercheur. C'est l'esprit non solidifié. C'est l'esprit qui n'accepte pas que la réalité soit comme si on ne pouvait pas l'expliquer. Comme si on ne pouvait pas... C'est pas une question d'expliquer, mais comme si on ne pouvait pas la pénétrer. Voilà, et du coup, ça rend dull, ça rend un mode de vie un peu automatique, où on a appris les bons gestes, on se lève comme si on savait ce qu'on faisait, quand on sait où on va, et tout ça. Et ça rend un peu éteint. Et dans notre pratique, il faut pas que ça soit éteint. Il faut que ça soit vivant. Il faut qu'on soit animé d'une passion, d'une recherche, d'un feu. À mon sens, c'est ça qui marche. Avec de la curiosité, on découvre plein de choses. Pas besoin de technique. On se les fait soi-même, les techniques. Toutes les techniques du monde, sans cette curiosité, ne mèneront nulle part, j'en suis sûr. Et celui qui est vraiment curieux, il arrivera à trouver des techniques qu'il faut et qui le mèneront là où il ira. On peut utiliser des techniques de méditation utilisées par des grands maîtres qui ont décrit ceci, qui ont décrit cela. Mais au final, c'était descriptif, c'était leur chemin. C'était pas une prescription. C'était pas prescriptif, c'était descriptif. Et on peut l'essayer. Si elle nous parle, on se la fait, on la fait nôtre. C'est notre technique. Ok, et on essaye celle-là. Donc que vous soyez chez vous, que vous soyez que nous autres qui sommes ici, je nous souhaite une magnifique nuit de Wessac, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses petits combats. Je vous recommande vraiment, de quand vous avez envie de bouger, essayez de voir ce qui se passe si vous attendez un peu. Et quand ça revient, essayez de voir ce qui se passe si vous attendez un peu. Et voir jusqu'où ça va, ça. Aussi, une autre petite expérience qui peut être faite, c'est s'il y a des moustiques. Juste voir ce qui se passe si on ne bouge pas. Alors, si on est un peu agité, ce n'est pas possible. Mais dans les moments où on est vraiment posé, s'il y a un moment où vous êtes vraiment posé et qu'il y a un moustique qui vient, on l'entend de loin, là, il faut lâcher. Là, il faut lâcher tout de suite. Dès que vous entendez le son du moustique, il ne faut pas laisser se construire une tension. Il faut lâcher. Et s'il se pose, il faut lâcher. Et s'il y a une sensation physique due à la présence du moustique, c'est juste une sensation physique due à la présence du moustique. Si notre esprit, à ce moment-là, est suffisamment posé, il n'y aura rien de grave. Puis ça va gratouiller un petit peu, mais dans un espace suffisamment vaste. Ça ne va pas trop déranger. Si c'est sûr que si c'est dans un moment où on est très justement dans une discussion, il se passe plein de choses, on a un monde très construit, le moustique arrive, ça va être ingérable. On est obligé de lui mettre une claque. Ça va être super dur de résister. Mais si dans un moment posé, ça vaut la peine d'être expérimenté. Ou une douleur pareille. Ouais, et puis je compte sur vous pour avoir toute la créativité nécessaire pour inventer tout un tas de petites expériences pendant cette nuit. On n'aura pas forcément l'occasion de les partager cette fois-ci. Mais est-ce qu'il y a des questions par rapport au fonctionnement de Wessac? Je vais plus commencer par ça pour ne pas... Voilà, ça c'est juste pour ceux d'entre nous qui sont dans l'attente par rapport au...
Peut-être le matin? Est-ce qu'il y a une... ensemble le matin
Non, il n'y a rien ensemble le matin et ça finit quand il fait jour. Et chacun sort de méditation au moment où il veut et puis certains vont partir directement, d'autres vont dormir ici, d'autres... Voilà, il n'y a rien de formel comme fin.
On va peut-être fermer ça pour le froid ou pas.
Ouais. Ok. D'accord. Ok. Si vous êtes chez vous, j'espère que déjà vous avez bien entendu. J'espère que ce discours il vous a aussi bien donné la patate pour vous engager dans cette nuit de méditation. Ah, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie pour s'engager dans une méditation. Il faut de l'énergie, il faut du feu, il faut de la motivation. Et je vous souhaite à tous une très belle nuit et tout ce qu'il y a de plus beau.
Ce discours a été mis à votre disposition par l'association Dharma Nature. Pour soutenir l'association et Denis Roberex, l'enseignant, rendez-vous sur www.dharmanature.org/donation. www.dharmanature.org/donation.